Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble pour nos lectures en liberté. Et cette semaine, je vous propose de débuter la lecture d'un roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement. Grâce et dénuement. Rares sont les gitans qui acceptent d'être tenus pour pauvres, et nombreux pourtant ceux qui le sont. Ainsi en allait-il des fils de la vieille Angéline. Ils ne possédaient que leur caravane et leur sang. Mais c'était du sang jeune qui flambait sous la peau, un flux pourpre de vitalité qui avait séduit des femmes et engendré sans compter. Aussi, comme leur mère qui avait connu les temps des chevaux et des roulottes, ils auraient craché par terre à l'idée d'être pleins. Le camp stationnait à l'est de la ville, circulant au gré des expulsions dans cette périphérie qui dissout les enchantements. Les décharges et les terrains vagues perçaient un passage de pavillons et de logements sociaux. On avait oublié, depuis longtemps, ce qu'avait pu être ce coin de pays en matière de beauté. Une immensité sous le blé. Les dernières terres agricoles avaient disparu avec les plantes d'urbanisation prioritaires. Le ciel, même lorsque le temps était sombre, était ici l'unique forme de la limpidité. Son clair-obscur écrasait les habitations endommagées. Seules les écoles, à l'heure de la sortie des classes, animait ce désert qui ne connaissait rien de la convivialité ordinaire des villages. Personne, hormis leurs habitants, n'aurait su distinguer les rues les unes des autres. Elles portaient des noms de fleurs, comme si le fonctionnaire qui les avait baptisées avait voulu donner au lieu la poésie qui manquait. Ou comme si les grands hommes de la nation ne se pouvaient fourvoyer dans ces développements urbains avortés. Au coin de la rue des Iris et de la rue des Lilas, un ancien potager restait inconstructible. L'institutrice retraitée qui en était la propriétaire refusait de le vendre à la commune. La terre, pleine de fondrières, était incrustée de verres cassés, de morceaux de pneus et de bouts de ferraille. Des portières de voitures démolies servaient de pont sur les grandes flaques qu'apportait la pluie. Une poubelle municipale scellée sur un socle de ciment débordait. Un pommier finissait de mourir dans le sol pelé, couvert de détritus et d'un peu de bois pourri. La fin de l'été ressembla cette année-là à une fin d'automne. L'hôtel désaffecté que squattaient les gitans dans la campagne avait été muré sous leurs yeux. Chassé par la police et les huissiers, la tribu d'Angéline vint occuper le potager au début de septembre. C'était une propriété privée, mais rien ne l'indiquait. Et ils avaient l'habitude de stationner là où on l'interdit. Un vent de bord de mer soulevait les cheveux longs des belles filles d'Angéline. Elles serraient des cardigans râpés sur leur poitrine. Les enfants couraient autour d'elles. De temps en temps, l'une ou l'autre en attrapait un, le talochait et le relâchait en vociférant qu'il se tienne un peu plus tranquille ou qu'il aille aider son père. C'était trop fatigant de les avoir à courir dans les jambes. Ils s'éclipsaient en poussant des cris stridents. Ils avaient des corps secs comme des triques. Et lorsqu'ils grimpaient aux pommiers, ils étaient prestes et agiles. « Apportez-moi du petit bois !» leur criait Angéline. Elle était joyeuse, et plus que les autres, comme si, l'âge gagnant, elle avait fini par comprendre que la joie se fabrique au-dedans. Les enfants étaient entraînés par cette gaieté, leurs petites mains grises rapportaient des branchettes et des brindilles. Angéline riait. Oui, les enfants étaient le premier bonheur. À cette pensée, elle cherchait des yeux ses fils. Il faisait rouler les camions en évitant les ornières. « Où on met la mère ?» hurlait l'aîné à ses frères. Peu après, une flambée réchauffa le vent. Ils s'assirent ensemble près du feu, rongèrent des croutons de pain et du lard en regardant cavaler les nuages. Les enfants se donnaient des coups de pied pour jouer. Comme d'habitude, Misia pleurait dans les bras de son mari. « Mamis, lui soufflait-il, tu vas voir, on va être bien. »« Je sais, disait-elle à voix basse. » Et l'on aurait cru qu'elle ne doutait pas du contraire. Il la caressait. Elle pleurait plus vivement parce qu'il la caressait. Elle était enceinte et proche de son terme. Ses chevilles rouges et enflées semblaient celles d'une vieille clocharde. « C'est la fatigue du voyage, » dit Angéline en regardant ses jambes jeunes et lassées. « Tu te coucheras tôt, ma fille. » La jeune femme ne répondit pas. Elle s'était arrêtée de pleurer. L'enfant, en elle, s'était mis à bouger. Ils étaient des gitans français qui n'avaient pas quitté le sol de ce pays depuis 400 ans. Mais ils ne possédaient pas les papiers qui, d'ordinaire, disent que l'on existe. Un carnet de voyage signalait leur vie nomade. Elle n'était cependant qu'un souvenir de la vieille. Les lois et les règles modernes avaient compliqué le passage d'une ville à une autre, et ils s'étaient sédentarisés. Comme la plupart des gitans. L'ouverture économique amenait sur les marchés des produits moins chers qu'il ne leur en coûtait de les réaliser eux-mêmes. C'est ainsi que les femmes avaient perdu la vannerie. Ils étaient en dehors. « On nous croit disparus », disait souvent Angéline, sans vouloir parler du grand holocauste. « Mais on est là. On est bien là, Dieu !» Et elle riait en essuyant ses mains sur ses hanches. La vieille n'avait pas encore 60 ans. Mais si la vérité est bonne à dire, elle portait bien son surnom. Son visage était fendu de rides si profondes et nombreuses qu'on aurait dit une maladie de peau. À la regarder de près, on avait mal à sa place. Elle ne souffrait pourtant de rien, et les ans difficiles qui l'avaient précocement vieillie ne l'avaient pas tuée. Elle en concevait un orgueil sympathique. Elle était en vie, envers et contre le monde et le froid. Elle avait un furieux désir de continuer à voir ce spectacle de la terre, du vent, du feu sous les nuages, des nuages même, et des nouveaux venus qu'elle avait engendrés dans cette bourrasque. Des 5 fils qu'elle avait portés, 4 s'étaient mariés avant de fêter leurs 20 ans. La nature nous y conduit tout droit, sans qu'on n'y voie rien. Angéline l'avait pensé chaque fois qu'était venue vers elle la fille élue et le fils aveugle de l'amour qu'il donnait. Personne n'aurait séparé 2 gitans qui se veulent. Son aîné était le seul à faire exception. Qui, au fur et à mesure que tardait une promise, avait jugé, à l'aune de ses 4 belles sœurs, que les femmes n'en valaient pas la peine. Angelo était le célibataire. « Tu n'as personne à rouspéter !» lui disaient ses frères. Il répondait « L'amour, c'est pas se rouspéter. » « Et pour l'amour, lui chantait tout bas le plus jeune, comment tu feras ?»« Bah, fiche-moi la paix, Lulu !» disait Angelo, qui ne trouvait pas ça drôle. « Oui, arrêtez donc de l'ennuyer !» criaient les femmes. C'était une tribu. Personne n'était jamais seul, et chacun se mêlait des autres. Aucun des fils n'avait quitté la mère. Nul n'aurait songé sans déshonneur à l'abandonner. Angelo, son aîné, lui tenait lieu d'homme pour les travaux difficiles et il partageait la même caravane. Les autres garçons lui avaient, au sens propre, ramené leurs épouses. Angéline, à chacune, disait « ma fille ». Mais elle avait ses préférences. C'était avec Nadia, la femme d'Antonio le cadet, qu'elle sentait le plus de bonheur. Pourquoi ? Elle n'aurait pas su le dire. Nadia avait été la dernière bru, c'était avec beaucoup de silence et de sourire qu'elle s'était glissée au cœur du clan. Puis Mélanie était née, et Antonio, d'être père, était devenu sérieux. Elle voulait dire fidèle. Oui, pensait Angéline, Nadia avait eu la patience d'attendre que ce garçon grandisse. Était-ce des raisons suffisantes ? On n'a pas besoin de raison, se disait Angéline. Sa personne entière avait aimé Nadia à la première minute où de loin elle l'avait aperçue. Qu'on le veuille ou non, on ne pouvait rien à cela. L'animal en nous guette et flaire ce qui arrive à lui, disait Angéline. Nadia, elle avait senti que c'était le bonheur, seulement à la voir marcher si menue, au bras d'Antonio avec un joli fichu noué autour de ses cheveux et d'une manière apaisée de se tenir. Elle avait l'air douce. Et c'était avec elle, aujourd'hui, qu'Angéline parlait le plus volontiers du passé, de la vie d'autrefois sur les routes de son défunt mari qui n'avait pas de santé, ou même de ses parents. Et des chevaux qu'elle n'aimait pas, mais sans l'avouer au père pour ne pas lui faire de la peine. Une fille de gitan qui a peur des chevaux, criait-elle, mais ça n'existe pas. J'étais la seule qui le murmurait, disait-elle à sa belle-fille avec fierté. Nadia écoutait jusqu'au bout sans l'interrompre. Peu de femmes réussissaient à se taire aussi longtemps. Angéline le savait. Elle-même ne se montrait pas aussi attentive. « Chez nous, les femmes crient sans arrêt, » disait Angéline à Elena, la seconde de ses belles-filles. « Tu es une vraie gitane !» Mais pour cette fois, ce n'était pas un compliment.
Mon pâtre gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle se balade, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant, et dans notre bistrot, personne ne comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, les joueurs de pelote s'arrêtent et plus rien, on a mal en dedans. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait tout, il balade sa vie. Ce type-là, c'était un grand musicien, moi j'en étais sûre et je le sentais bien. L'écolier m'a dit qu'on est venu le chercher. Un grand musicrand voulait l'engager. Mon pote le gitan, il a refusé. Un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami. Pourtant ce gars-là n'avait jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte. Et dans ma petite tête, j'ai du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée. Quand je pense à lui, il m'arrive de chanter. Toi sacré gitan qui sentais le cafard. Au fond, ta musique était pleine d'espoir.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Grâce et dénuement, Alice Fernet. Les manières d'Héléna avec Simon ne plaisaient pas à Angéline. C'était un ménage qui tournait mal, et elle croyait que rien de bon ne sort jamais des époux qui se chamaillent. Ça fait des enfants malheureux, et les enfants malheureux, ça fait des adultes mauvais, disait-elle à Simon, lequel attendait que sa mère en eût terminé, mais ne l'écoutait pas. Ce bon à rien, disait Héléna à propos de son mari en parlant assez bas pour qu'il n'entendît rien. Il la frappait parfois rudement, mais pour rien au monde elle n'aurait parlé. Angéline n'aimait pas entendre critiquer ses fils. Tu l'as choisi, ma fille, tu l'as choisi, tu le gardes, disait-elle à Héléna sans prétendre discuter davantage. Mais Héléna était insolente. Elle était la seule à répondre à sa belle-mère. Les trois autres belles filles la regardaient avec effroi. Dieu sait que j'ai choisi Simon, mais Dieu sait que je me suis bien trompée, et Dieu se demande si je vais le garder, répondait-elle en rougissant sous le regard arrêté de la vieille. Laisse le Dieu tranquille, criait la vieille en colère. Alors, comme les autres, la jeune femme se taisait. Qu'Angéline eut à ce point un empire sur ses enfants, voilà ce qui agaçait le plus Héléna. Mais elle n'avait jamais pris le temps de trouver la raison de cette domination pour la dénouer, au lieu de quoi elle tirait dessus sans réfléchir. Elle pressentait que les mœurs changent plus que le fond des âmes. « Je ne suis pas ligotée à ce mari, » murmurait-elle en urinant accroupie dans l'herbe. Puis, toute légère à cette idée, elle partait rejoindre Missia et Milena, qui étaient toujours fourrées ensemble à boire du café quand elles en avaient. Pendant ce temps, les hommes fricotaient de petites affaires qui les occupaient longtemps et mollement. Ils étaient restés comme sont les enfants, vivant de peu, jouant avec rien, ne calculant pas, inconséquents et sans souci de l'avenir. Et d'ailleurs, chaque fois qu'Angéline les regardait de loin s'affairer ou discuter, il lui semblait les voir jouer et se bagarrer comme lorsqu'ils étaient petits. Elle n'avait rien oublié du temps des langes qui leur manquaient. Les selles gelaient dans le tissu autour des petites fesses brûlées. Le père pleurait de vraies larmes sur la vie trop dure de sa famille. Il en était mort. Angéline disait « mort de voler pour manger ». Il s'était fait prendre et punir au sang dans un appentis où il avait gelé autant que la terre sous lui. Aussi bien Angéline avait continué seule, à l'est, où la couleur du temps et le vert des forêts sont plus tristes qu'en nulle autre place. Mais quand ils étaient encore époux qui se couchaient le soir ensemble, elle l'aimait. Elle avait tant de pitié qu'elle se détournait pour ne pas voir nu ce corps sans chair, son mari à la peau de linceul. Elle était si vivante qu'il lui semblait déjà mort, l'entraînant avec lui, la privant de donner ce qui en elle bouillait de se transmettre et de se renouveler. Elle aurait voulu des étreintes, la douceur des caresses et des enfants, avoir toujours un nouveau-né à bercer ou une poussée de chair au-dedans d'elle. Mais lui ne fait même plus la force, celle des bêtes, de la santé, du printemps et de l'amour. Il s'abattait dans le sommeil comme un arbre sous la cognée, et elle, dans le noir, s'allongeait enfin contre lui. On devrait rester couché. Oh, pensait-elle, l'amour, la chair étaient les seules choses douces qu'ils possédaient, et voilà qu'on les leur avait prises. Sa peau était un velours chaud, et elle était une belle femme, elle le savait bien, grâce à quoi, tout de même, elle avait connu l'allégresse, le ravissement, et maintenant le mari que chaque journée tarissait. Elle ne voulait pas y penser, elle continuait de l'aimer. Elle sentait le corps à côté d'elle comme un fil. Sa main n'avait pas de surface à caresser, et lorsqu'elle s'acharnait à le faire quand même, elle sentait tous les os. Les os eux-mêmes lui paraissaient minces. Comment ça tient debout tout ça ? Se demandait-elle en rêvassant au bord de son sommeil. Et le matin, elle voyait que ça ne tenait pas. Quelle misère ! Quelle misère ! Elle se le répétait en effleurant le visage endormi, un visage qui n'était plus qu'un nez autour duquel le reste avait fondu. Puis elle rentrait sa tête sous le bras de son mari et restait ainsi toute la nuit coincée dans son odeur. Elle écoutait bruire l'ombre du dehors, si proche que sa fraîcheur les enveloppait tous. Les garçons avaient des respirations régulières et se serraient les uns contre les autres pour se tenir plus chaud. La beauté de ce qu'elle avait accompli était dans cet écheveau de chair enfantine qu'elle écoutait prendre son air glacé de nuit. Elle aurait dû ne jamais s'arrêter de faire des enfants. Elle était une louve protectrice et nourricière. Elle aurait pu lécher ses fils et parfois elle ne pouvait s'empêcher de les mordiller. Ils se mettaient à pleurer, les idiots. Celui qui aurait touché un seul des cinq petits qui dormaient là, elle l'aurait égorgé sur ses genoux en supportant de regarder sans fin s'écouler le sang. 20 ans étaient passés depuis ces nuits-là. Maintenant, elle s'étonnait de ce qui lui paraissait avoir été du bonheur. Elle disait « Dans ma jeunesse, il n'y avait rien. On n'avait même pas un lit pour dormir, mais ça, je me souviens. » Mais je ne sais pas comment, ça manquait pas. On était tous ensemble avec rien, juste à devoir se trouver à manger. Maintenant, on a plus et ça fait du mal. Mais comment c'est fait ? Tout de travers, répondait Missia. Et cela finissait la conversation. Angéline n'aimait pas déplorer la vie. Elle aimait ces jours d'aujourd'hui dans ce vieux corps enflé, plein de temps et de mémoire. Ayant fini d'élever ses fils, mais voyant grandir ses petits-enfants et tout ce monde-là se gardant autour d'elle. « Je vous regarde pousser et je demande rien d'autre au bon Dieu. »« Es-tu vieille, grand-mère ? » demandait Anita, la plus âgée des petites filles. « Oh oui !» disait Angéline. « J'ai déjà vécu beaucoup de jours. »« Tu vas bientôt mourir alors ?» disait Anita. La vieille secouait la tête. « Non, disait-elle, sûrement pas. » La fillette semblait rassurée. À l'évidence, Angéline ne pouvait vivre que longtemps, elle le voulait. La vie était sa cathédrale et les garçons étaient des flèches vers Dieu et le ciel. « Tiens-toi droit !» disait-elle à Angelo. Et le garçon se redressait aussitôt. « J'ai la fierté de mes fils !» lui murmurait-elle pour s'expliquer. Angéline avait trois secrets. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait compris ce qui était possible, c'est-à-dire que tout ne l'est pas. Et aussi ce qui se tait avec profit. Cela faisait beaucoup de sagesse. Elle débusquait les âmes tapies derrière la chair. Les minuscules traces et plissures qu'elle dessine sur la peau à force de mouvements répétés, d'expressions et d'humeur. Angéline ne les manquait jamais. Elle avait perçu dans l'instant de la rencontre que Nadia était douce et Elena révoltée. Elle savait également ce qu'on ne disait pas, que Milena était bête et Misia insatisfaite. Que Simon était brutal et peut-être même fou. Que Lulu était un taureau et Antonio un papillon volage. Elle connaissait chacun de ses fils sans jamais ni en parler, ni leur parler. À Joseph, que tous appelaient Moustique car c'était le plus gigantesque des frères, elle avait seulement osé dire « Es-tu certain de vouloir épouser Milena ?» Milena était bête velue, noire et rapide comme une mouche. Et lorsque le garçon avait répondu qu'il en était sûr, elle avait acquiescé sans discuter davantage. Elle n'avait pas essayé de lui faire comprendre pourquoi elle avait posé cette question. Et s'il avait voulu le savoir, il aurait demandé. Elle avait fait le mariage. C'était le troisième. Simon et Elena, Lulu et Misia, Moustique et Milena, Antonio et Nadia, et son Angelo solitaire. Elle les couvait de son regard jaune, ses enfants qui avaient pris femme et se multipliaient, les comptait dans ses prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez toute ma famille et faites que le Simon soit doux et bon. Car Dieu nous donnant à tous un fardeau, le Simon était brutal et fou. Voilà donc pour ce soir le début de ce roman de Alice Fernet, Grâce et Dénuement. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.